goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire l'épice garam masala. Donc en fait, c'est un mélange de plusieurs épices.
La coriandre, le cumin, des épices très douces, comme de la cannelle, comme de la cardamome, et beaucoup de poivre.
Is the president of France able to order murgh masala?
Les Anglais ont fait une simplification de la cuisine indienne, puisqu'en Inde, les plats utilisent soit des masalas déjà prêts, soit des assemblages d'épices, et pour chaque plat, il va y avoir un mélange d'épices qui correspond parfaitement.
Là, le chef, c'est le moment, c'est l'instant, préparez les épices.
Garde à vous!
On va déguster, dresse le couvert au cœur du Festival du Livre de Paris. Bonjour à toutes et tous! Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous du livre et de l'édition qui se tient depuis vendredi et jusqu'à ce soir au Grand Palais éphémère. Nous sommes place Joffre dans le 7e arrondissement de la capitale, métro école militaire. Radio France est la radio officielle du Festival du Livre de Paris et une partie de la bande dont on va déguster est à mes côtés pour cette occasion. Merci d'accueillir, cher public, notre chroniqueuse Elvira Masson, notre libraire gourmande Déborah Dupont. Et nos messieurs du vin, Antoine Gerbel, Dominique Hutin, bonjour à tous.
Bonjour à tous et toutes.
Bonjour, bonjour.
On va parler avec vous évidemment, livre de cuisine, livre coup de cœur, recettes, ouvrages autour du vin, cuvée coup de cœur, mais on va aussi évoquer les saveurs indiennes, histoire de faire un clin d'œil appuyé à un pays qu'on aime beaucoup, dont on apprécie la cuisine et la littérature. C'est l'Inde, pays invité de cette édition et celle qui va nous faire voyager en Inde, qui est en fait son pays natal. C'est une habituée du plateau dont on va déguster. Merci d'accueillir Bina Paradin Migoto. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Double, ou plutôt triple actualité. Il y en a partout. Il y a d'abord l'Atlas des épices dont on va parler. Un livre ambitieux, illustré, voyageur, que vous avez édité chez Flammarion. C'était à l'automne dernier.
Exactement, c'est paru en octobre.
Il y a ensuite le garam masala, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure. On va s'intéresser à cette poudre magique dont vous allez nous révéler tous les usages et les secrets. Et votre hyperactivité, Bina, vous pousse également à sortir un MOOC de cuisine dont vous nous direz un mot.
Avec plaisir,
le
un dîner A qui vous emmène en voyage dans une ville du monde à la découverte de sa cuisine et de ses épices.
Absolument, un MOOC à retrouver donc en librairie, en kiosque.
Un MOOC qui est depuis ce matin sur Kiss Kiss Bank Bank.
Très bien, Kiss Kiss Bank Bank, vous allez nous expliquer ça. Pour retrouver toutes les infos justement sur le MOOC de Bina et toutes les infos de l'émission, les références, nos coups de cœur, nos podcasts, nos adresses, eh bien rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bienvenue dans cette librairie géante que représente ce Festival du Livre de Paris. 300 000 livres, 500 auteurs, 180 rencontres, débats, lectures, ateliers dans les 6500 mètres carrés de ce grand palais éphémère. Chers chroniqueurs et chroniqueuses, j'ai demandé à chacun de vous d'aller à la pêche dans les travées de ce festival et de rapporter dans vos filets un ouvrage coup de cœur. Allez, on commence, je dirais, avec Antoine Gerbel. Je suis sûr qu'il s'est tourné vers un livre sur le vin.
Ah bah, bien deviné, bravo. On est sur un sujet très pointu, qui est la cuisine indienne. Alors, évidemment, on pense tout de suite force, épices. On va en parler durant l'émission. Et il y a des vins qu'on peut collectionner parce que ça se garde indéfiniment et qui ont vraiment un lien direct avec eux. On appelle ça les vins oxydatifs. Alors, il y a un livre qui vient de sortir, ça s'appelle « La nouvelle épopée des vins oxydatifs secs ». C'est en rapport avec un salon, micro-salon, qui a lieu depuis 3 ans à Perpignan, qui s'appelle « Bir Ranci ». Donc, le nom catalan, c'est Ranci, Rancio. Le Rancio, c'est simple, hein, c'est un vin issu d'un raisin récolté très tardivement. On le met en tonneau, mais au lieu de le houiller, c'est-à-dire lui rajouter du vin frais pour qu'il ne s'oxyde pas, on le laisse gentiment s'oxyder. Et il y a une famille extraordinaire de vins oxydatifs. Et ce livre raconte cette aventure, puisque on part en Afrique du Sud, on part en Australie, on part aux États-Unis, on part bien sûr en Europe, en Espagne, avec la grande Andalousie qui est la reine des finots et des rares. Et puis en France, on a aussi une petite merveille, pas seulement dans le Sud, c'est dans le Jura. Le vin jaune fait partie de ces familles oxydatives. Et le vin jaune avec la cuisine indienne, ça c'est déjà une piste pour la journée.
On dit souvent qu'il y a une aromatique autour du curry d'ailleurs. Hein. Les vins oxydatifs sont vraiment très copains avec les plats épicés.
Le fameux sotolon, cette molécule qu'on retrouve et dans le vin jaune et dans les épices du curry.
Parfait, vous nous rappelez les références de votre ouvrage, cher Antoine Gerbel.
Alors, ça s'appelle Collection Bifort, c'est chez Trabucaire, et c'est 190 pages, ça coûte 27 euros.
La nouvelle épopée des vins oxydatifs secs. Merci beaucoup. Elvira Masson, en général, vous ne racontez pas trop de salades à ce micro, mais là, vous faites une exception.
Et pourtant, si. De la mâche, moutarde, scarole, frisée, roquette, pourpier et autres chénopodes, en passant par les poétiques reines des glaces, plantain lancéolé, barbe de capucine, la japonaise Mizuna.
Ah, la Mizuna, j'adore ça.
Chimedirapa, Puntarelle, Radicchio, Castelfranco. C'est un herbier vivant de près de 40 salades, domestiques ou sauvages, qu'a composé l'autrice de ce livre qui m'a complètement séduite.
Je suis bien de votre avis. J'ai adoré ce bouquin. Il manquait vraiment dans ma bibliothèque.
Ah ouais.
D'ailleurs, je vous le pique.
Bah,
non, je l'ai reçu aussi.
C'est cadeau. Il s'agit de Barbara Guichetot et de son Salade, on en fait tout un plat. C'est un inventaire qui rend hommage à ce monde d'une richesse immense, dont nous sommes d'ailleurs assez responsables, nous-mêmes, chez le primeur. C'est bien que nous demandions autre chose que les sempiternelles, laitues et bataillons. Il y en a tellement d'autres. Alors, le livre n'est pas seulement un inventaire, il est émaillé de recettes, de conseils, d'informations super intéressantes, historiques ou pratiques. On y croise aussi quelques portraits de cueilleurs, de maraîchers, de commerçants. On tombe même au détour d'une page sur Bria Savarin et son bon mot, comme toujours, je le cite, « La salade réjouit le cœur, j'en recommande l'usage à ceux qui ont confiance en moi. La salade rafraîchit sans affaiblir et réconforte sans irriter. J'ai coutume de dire qu'elle rajeunit. » Et ben voilà, dont acte.
Magnifique. Il y a aussi d'ailleurs un superbe chapitre autour des sauces, des vinaigrettes, mais avec les influences. J'aime beaucoup ces schémas qui montre le rapport entre le corps gras dans une vinaigrette, le corps acide, l'apport épicé.
C'est très très bien fait.
À travers des schémas qui sont très instructifs, très pédagogiques. En voilà un très beau bouquin, édité comme il se doit. Voilà, l'édition culinaire, c'est aussi ça.
Chez Flammarion, 25
euros. Faire des livres qui ont du sens, absolument. Bravo Flammarion. On parlera aussi Flammarion tout à l'heure avec l'Atlas des épices. Flammarion est gâté aujourd'hui.
Avec la même éditrice, Clélia.
En plus.
Elle est forte.
Où est-elle? Elle est là. Bah, bravo, vraiment, très très beau travail. Dominique Hutin. Oula, je vous ai réveillé.
Pardon, on me parle. Bon, écoutez, puisqu'on est avec l'Inde, on est en Asie, je vous propose qu'on y reste simplement avec Château Pékin de Boris Petrich, édition Le Bruit du Monde. C'est un éclairage assez fouillé sur les relations entre la Chine et le vin. Donc vous trouverez toutes les références sur notre site, tout comme d'autres ouvrages comme Le Vin Naturel de Gilles Cousin.
Ah oui.
Tout ça, c'est sur France Inter, on va déguster. Et puis pour élargir un petit peu quand même cet horizon, une somme issue d'un travail de collectif, de chercheurs, que j'ai l'honneur de préfacer. Ça s'appelle Les Cultures du Vin. C'est à l'Harmattan. Ça alimente une collection qui est dirigée par Kylian Stengel, que vous connaissez peut-être, qui mène un travail autour des questions alimentaires et gastronomiques. Et donc, dans ce bouquin, au fil de 24 chapitres totalement indépendants les uns des autres, qui sont issus d'un colloque qui s'appelle Les Territoires du Vin à Angers, et ben, on y parle terroir, on y parle culture, on y parle économie. Autant vous dire que c'est un tout petit peu plus long qu'un tweet, un peu plus fouillé qu'un post Instagram. Voilà. Et pour autant, alors bizarrement, ce champ d'investigation, ce bouquin de savoir est relativement bien digeste. Je m'y suis essayé, ça se digère très bien. Alors vous avez trouvé des sujets extrêmement variés comme vin et genre, territoire oublié, terroir enfoui, et puis d'autres peut-être un petit peu plus inattendu, comme le vin en utopie, ou alors, accrochez-vous, retrouver le soleil des vacances, la vente du vin italien à Paris comme exemple de marketing émotionnel.
Ah, intéressant comme question.
Voilà. Donc à la lecture de tout ça, on comprend un peu mieux le titre, Les Cultures du Vin, donc une somme plurielle. C'est dirigé par Jean-Michel Monnier, Jean-René, Maurice, René Siré et Jean-Claude Tadéhi. C'est à l'Harmattan, c'est 39 euros ou 30,90 € en version numérique.
Un ouvrage panoramique sur les représentations culturelles du vin. C'est vraiment un ouvrage à 360 pour tous les amoureux du vin, mais pas uniquement dans le verre, hein. C'est ça l'idée.
Ça peut paraître aride, il n'y a pas beaucoup d'images, mais c'est écrit gros pour vous, Jean-François.
Et en plus, il m'appelle Jean-François. Non, mais je rêve. Ça fait 10 ans qu'on fait de la radio
ensemble,
cher Dominique.
Je vais faire une antisèche avec le prénom de chacun.
Je vais vous appeler Michel, tiens. Déborah Dupont.
Eh bien, un livre sans photo aussi. Je suis allée fouiller chez un éditeur qu'on n'a pas l'habitude en fait de voir en matière de livres de cuisine, l'édition des Belles Lettres. Et le livre s'intitule « Méthode de cuisine à l'usage des personnes intelligentes ». Alors pourquoi ? L'idée est simple. Donc, c'est un ouvrage belge en fait qui a été écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc dans un contexte de crise sanitaire, comme on connaît aujourd'hui, au titre accrocheur, donc sans aucune photographie, et qui donne des clés de compréhension de la cuisine du quotidien. Une somme de bon sens culinaire où chaque chapitre thématique débute par une explication générale du concept ou du type de recette qui sera proposée avant de donner des déclinaisons et variations. Je vous donne un exemple. Les ragoûts sont des braisés qui achèvent de cuire dans une sauce longue où la viande mitonne tout à son aise, échangeant ses sucs avec ceux des légumes qu'on a choisis pour lui tenir compagnie et prenant peu à peu le parfum des aromates qu'on a mis dans l'eau de cuisson. C'est dire que pour faire un ragoût, il faut d'abord faire sauter les morceaux de viande au beurre ou à la graisse. Lorsqu'ils ont pris couleur, on les range dans une casserole plus grande que la cocotte qui sert pour les braiser. Le couvercle doit joindre hermétiquement, de façon que l'arôme ne s'échappe pas. On peut cuire les ragoûts au four à condition que la chaleur ne soit pas trop forte. Et ça continue pendant à peu près 2 pages à chaque fois pour vraiment le début de l'introduction. Et ensuite, on a toutes les variations, donc de tous les types de ragoûts, avec tous les types de viande. C'est hyper intelligent, comme son nom l'indique. Et avec ça, n'importe qui peut réellement apprendre à cuisiner.
Voilà une bonne idée de réédition. Vous nous en rappelez les références, chère Déborah.
Méthode de cuisine à l'usage des personnes intelligentes aux éditions des Belles Lettres et ça coûte 23 euros.
Très bien, merci beaucoup. Et puis un coup de cœur pour finir, mon coup de cœur pour un charmant recueil de textes intitulé Relief. L'auteur, c'est Bénédicte Cartelier aux éditions Le Temps qu'il fait. Là aussi, on est sur une petite maison d'édition qui ne cause pas que cuisine. L'autrice est haut fonctionnaire à Paris. Elle collabore aussi depuis quelques années à une revue que vous connaissez sans doute, Papille. Et elle rassemble dans ce livre toute une série de chroniques sur ses goûts, ses dégoûts, ses habitudes de table, ses souvenirs gourmands. D'une page à l'autre, elle sautille du coq à l'âne et des ovoproduits à la purée de pommes de terre en flocons. C'est sa passion dans la vie. En passant par les cucurbitacées, le service consommateur de Picard ou encore un drôle d'objet culinaire nommé Waouh, W-A-H-2-O. Qui a déjà entendu parler de ce mot dans la cuisine? Il n'y a pas une seule main qui se lève. Bah moi aussi j'ai appris. Ah si? Ah, donc madame sait sans doute qu'il s'agit d'un curieux objet comestible extrait. Connaissez-vous le Waouh? Je l'ai découvert à la cantine. Le Waouh présente le même aspect que la dorade coryphène, même chair compacte immaculée, même absence d'odeur, de saveur et d'arête, ce qui n'est pas le moindre de ses avantages en restauration collective. Est-ce gras ? Hélas, c'est là que le bât blesse, car les informations que j'ai glanées divergent sur ce point, comme celui de sa valeur calorique. En tout cas, le Waouh est plus calorique que le cabillaud, entre 100 et 130 calories au 100 grammes environ. Le pavé que j'ai mangé était très beau, il avait la forme d'un pavé de saumon, la couleur de l'aigle fin et la texture d'une darne de thon. Le chef que j'ai interrogé ne savait pas grand-chose sur ce poisson. Il l'a comparé au requin. Renseignement pris, le Waouh, de son nom scientifique Oncotocybium solandri, est appelé en France tasard noir ou thon banane. Du thon banane, si j'avais su. Ce nom me fait horreur dès qu'il associe 2 mètres à calories que je déteste en surplus. En reprendrai-je un jour? Je ne crois pas. En manger une fois, c'est en manger une fois pour toutes. Voilà, je me suis positivement régalé à la lecture des textes de Bénédicte Cartelier, très bien troussé sur le plan du style, à la fois drôle, érudit, charmant, bourré d'anecdotes croustillantes et de tous ces petits savoirs qui nourrissent l'esprit. Je me suis juste senti un peu visé quand elle nous envoie une châtaigne à nous autres journalistes qui, je cite, « use volontiers des jeux de mots » comme s'ils tentaient par avance d'excuser la futilité de leurs propos. Alors là, non, je ne suis pas d'accord. Le savoir sérieux et approfondi peut au contraire se cacher derrière un calembour. Et j'ai toujours considéré que le jeu de mots était une espèce de cuisine ou d'assaisonnement de l'esprit. Mais voilà, sans rancune au contraire, lisez Relief de Bénédicte Cartelier aux éditions Le Temps qu'il fait. C'est un petit bonheur de lecture. À la manœuvre, en régie, pour cuisiner cette émission, Laurent Thomas, Olivia Branger, Thomas Robin, David Abekassis, Nadia Chougui. On plonge dans les marmites indiennes et dans le placard à épices de Bina Paradamigoto, notre invité, juste après de Black Keys, qui nous joue Wild Child. C'est un choix de Djoubaka. Bienvenue au Festival du Livre de Paris sur France Inter.
Close now, let me tell you a lie. Wild child.
Lorsque Clélia, mon éditrice, m'a proposé de faire un atlas des épices, j'ai bondi de joie, ravi de me plonger dans un sujet qui me passionne. Je n'imaginais pas alors le voyage fantastique qui m'attendait dans les mois suivants, alors que presque toute l'humanité était confinée. Ce sont les premières lignes de votre avant-propos. L'avant-propos de l'Atlas des épices, un tour du monde des saveurs en 50 recettes et rencontres, on l'a dit, aux éditions Flammarion. Bina, Paradin, Migoto, avec une préface d'ailleurs d'Olivier Rollinger. Hein. Vous entretenez les meilleures relations du monde avec...
Oui, on collabore depuis une dizaine d'années ensemble.
Le chef de Cancale, sa fille également, qui
Mathilde.
S'occupe du comptoir des épices. Vous développez d'ailleurs toute une gamme avec eux. Alors donc, ça veut dire que ce livre, qui est un peu hybride entre l'abécédaire d'épices, le livre de géographie, d'histoire, l'atlas, vraiment un livre hybride, comme on les aime.
Et un carnet de recettes.
Et un carnet de recettes, évidemment, puisqu'il y a 50 recettes épicées du monde entier. Ça a d'abord été du coup un voyage intérieur, en quelque sorte, puisque l'aventure a démarré en plein confinement.
Voilà, l'aventure a démarré en plein confinement et l'idée c'était de faire un atlas où on part à la rencontre des cultures d'épices à travers le monde, donc comment chacun utilise les épices dans sa cuisine. Et j'avais envie pour ça de rencontrer des gens, et donc je les ai rencontrés la plupart du temps virtuellement sur des Zooms, etc. Et au final, j'ai fait une soixantaine d'entretiens avec des chefs, des cuisiniers, des producteurs d'épices à travers le monde. Donc pendant que tout le monde était confiné, moi j'avais des rendez-vous téléphoniques à New York, à Bangkok, à Kinshasa, partir à la chasse aux épices.
Et vous êtes sorti un peu, j'ai envie de dire, on va employer l'expression, de votre zone de confort, dans le sens où on vous identifie beaucoup au répertoire indien, évidemment, hein, vous êtes d'origine indienne.
Je suis Kerala, très Kerala, exactement. Vous êtes dans même le au Kerala. Berceau des épices.
Vous avez beaucoup, beaucoup fait bouger la cuisine indienne en France par vos créations d'épices, par vos livres.
Merci.
Et là, vous avez dépassé le cadre en quelque sorte en vous intéressant à des épices du monde entier dont vous ne connaissiez peut-être pas l'existence, puisque ce livre concerne vraiment tous les continents.
Oui, j'avais une passion depuis toujours pour les épices et donc j'avais pas mal déjà exploré toute la route des épices, donc qui va du Kerala à l'Italie, à la France, à l'Europe. Et en faisant l'Atlas des épices, ça m'a fait découvrir d'autres continents que je connaissais moins bien, notamment comme l'Afrique ou l'Amérique latine, dans lequel j'avais pas forcément eu l'opportunité de voyager. Donc j'ai fait des rencontres, j'ai des chefs qui m'ont envoyé des épices dont parfois je n'avais jamais entendu parler avant, et j'ai fait des découvertes de saveurs extraordinaires.
Eh bien justement, je vous ai demandé en préparant cette émission, mais malheureusement, on va dire à notre public que vous arrivez sur ce plateau totalement bredouille, de nous apporter une épice dont vous n'aviez jamais entendu parler, que vous avez découverte à l'occasion de la rédaction de votre Atlas des épices. Moi-même, j'avoue n'en avoir jamais entendu parler. On ne l'aura pas à nos côtés, et pour cause, c'est une épice ou un condiment très compliqué à trouver, mais vous allez quand même essayer de nous en décrire à la fois la forme, la sensation gustative.
Alors c'est une épice qui est utilisée en Afrique subsaharienne, que Stéphane Belaola m'a fait découvrir, qu'Alexandre Belaola
oui,
m'a fait découvrir.
Oui, alors là on parle du chef français d'origine
exactement.
Africaine qui fait de très très belles prouesses à Paris.
Et j'ai assisté dans sa cuisine à une vraie prouesse presque magique, puisqu'il utilise une épice qui s'appelle l'écorce de l'arbre à ail. Qui
l'écorce
pourrait être
de l'arbre à ail. Qui a entendu parler dans notre public de l'écorce de l'arbre à ail, y compris parmi les chroniqueurs, là tout le monde sèche hein. Pourtant, il y en a qui ont un
silence,
sacré niveau
écorce,
culinaire.
Oui, arbre, oui, ail, oui.
Voilà, c'est
et
ça.
Les trois ensemble.
Les trois ensemble, ça le fait moins.
Et l'écorce de l'arbre à ail, c'est d'autant plus étonnant que c'est une épice qui donc se présente sous la forme d'une écorce séchée qui n'a pas beaucoup ni de goût ni de saveur brute. Et elle est calcinée, mais littéralement calcinée. Elle devient toute noire. Et à ce moment-là, ça devient une épice extrêmement complexe avec des saveurs. Vraiment, on est un peu dans l'encens, dans des choses qu'on n'oserait pas imaginer en cuisine. Et ça donne beaucoup de profondeur à beaucoup de sauces de la cuisine africaine. Et quand je dis africaine, c'est évidemment une simplification. Chaque pays a des cuisines très différentes. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Notamment la fameuse sauce bongo, qui est une espèce de curry africain, qui est une sauce qui sert à un plat mijoté et qui est noir.
L'écorce de l'arbre à ail qui révèle ses parfums une fois qu'elle est brûlée. Voilà, c'est du feu que naît précisément la quintessence de cette épice et qui du coup noircit les sauces
dans lesquelles elle entre. Charbon.
C'est ça, noir comme du charbon. Très intéressant. Ben, on a encore des découvertes à faire. Hein. Il ne suffit pas d'une vie évidemment pour découvrir tout le répertoire comestible qu'il y a à notre disposition. Vous m'avez parlé également d'une. Alors là, on va changer de continent. On passe de l'autre côté de l'Atlantique pour une pâte de piment très particulière qui constitue en quelque sorte l'âme du ceviche.
Exactement, c'est une pâte de piment amarillo. Alors moi, pour le piment, c'est un sujet qui me passionne et dans lequel il y a une grande, grande diversité. Chaque pays, chaque cuisine a des piments spécifiques qui donnent ce goût. Et donc l'amarillo, c'est un piment péruvien qui est jaune, très jaune, avec des saveurs très fruitées, florales, presque pas piquant pour faire plaisir à mon voisin et qui va donner cette saveur très particulière qui est la base du tigre de leche qui est la sauce dans laquelle on met les morceaux de poisson pour la marinade du ceviche.
Voilà cette marinade qui propose comme ça, qui constitue une cuisson express en fait, hein,
des morceaux sont saisis dans le citron et les épices.
Voilà. Ben, c'est tout à fait passionnant. Vous en apprendrez, tous les amateurs d'épices, dans ce livre. Atlas des épices, un tour du monde des saveurs en 50 recettes et rencontres. Et en parlant de recettes d'ailleurs, j'y ai trouvé quelques-unes qui me font très envie. Un curry vert de poulet. Alors là, on est dans une recette emblématique thaïlandaise. Un cabillaud, 5 parfums. Là, on est plutôt en Chine.
En Chine, complètement.
Un couscous aux légumes du chef franco-tunisien Nordine Labia. On le connaît pas, celui-là. Hein.
À mi-chemin.
On sait pas qui c'est, hein. Nordine Labia. Allez, couscous emblématique à mi-chemin dans le 14e arrondissement de Paris. Il y a le poulet DG du chef que vous évoquez, Alexandre Bellaola, formidable, avec des épices d'origine africaine. Bref, c'est un très, très beau voyage autour du monde à travers des épices. Dans un instant, on va se parler d'un mélange spécifique que vous connaissez par cœur, auquel vous avez consacré un livre. C'est le garam masala, mais on en dit pas trop. Tout de suite, on s'attelle à un genre littéraire qui a du succès en ce moment au rayon cuisine, à moins que ce soit aussi au rayon littérature.
France Inter. On va déguster.
Cher Déborah Dupont, notre libraire gourmande dans la grande famille des livres de gastronomie, oui, il y a un genre littéraire qui monte en puissance dans les rayons, notamment de votre librairie. C'est, alors il faut l'appeler comment, le roman de gastronomie ?
Le roman culinaire
le
ou roman
culinaire.
Gastronomique, effectivement. C'est comme son nom l'indique, donc en fait on a toute une série de livres qui ne sont pas des livres de recettes, qui sont des textes, des romans ou des polars, il y a aussi beaucoup de polars, simplement truculents, qui mettent en appétit, et parfois certains vont même plus loin, en rajoutant en fait au fil des chapitres des recettes qui ont rapport avec l'intrigue qui vient de se dérouler, ou en fin d'ouvrage tout simplement à la façon des notes de bas de page. Donc je vous ai mis en ligne sur le site de France Inter à la page On va déguster, une sélection un peu comme j'avais fait lorsqu'on avait fait l'émission sur les bandes dessinées culinaire. Donc je vous ai fait une sélection de livres où vous verrez aussi bien Une gourmandise de Muriel Barbery que Le ventre de Paris d'Émile Zola, parce que c'est quand même très large, Charlie et la chocolaterie pour les plus jeunes. J'ai fait des petits paragraphes un peu thématiques pour vous faire un focus sur la littérature japonaise qui occupe quand même une très grande place entre Le maître de thé, Les délices de Tokyo, Le restaurant de l'amour retrouvé, ce sont plein de titres avec beaucoup de poésie. Certains vont au contraire s'attacher à des faits divers un peu plus dramatiques. Je pense à des parutions récentes comme Chef qui vient de sortir de Gauthier Battistella, donc qui parle en fait du suicide d'un chef triplement étoilé. Vous aurez aussi côté polar bien évidemment tout ce qui concerne Michel Barrière. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Il y en a pour tous les goûts. Il me paraîtrait strictement impossible que vous ne trouviez rien. Et dans les parutions récentes, j'aimerais faire un petit focus sur, alors, clairement un roman de plage, un roman de week-end, c'est très détendant. Les recettes des dames de Fenlay. Donc, ça se passe en Angleterre, pendant le Blitz. Et, en fait, la BBC décide qu'il faut participer à l'effort de guerre et veut, en fait, organiser une émission culinaire, radiophonique, ça vous dit quelque chose. Et ils veulent avoir des femmes, ce qui est quand même, à l'époque, particulièrement audacieux. Et pour cela, ils vont organiser, dans la petite ville de Fenlay, un concours où il y a donc quatre dames qui vont s'affronter et la gagnante sera celle qui aura le droit de participer à l'émission en tant que chroniqueuse. Donc bien évidemment, toutes les recettes proposées sont des recettes de guerre, des recettes de restriction. Et parmi la liste, donc, j'ai sélectionné des scones aux fruits qui normalement doivent passer. Vous les avez aussi sur le plateau.
Il y a son scone aux fruits, il est déjà terminé dans les gradins dont on va déguster là.
Alors, pas de piège dans ces scones. De la farine, du sel, de la levure, du sucre. Alors, le sucre, c'est une cuillère à soupe, hein, bien évidemment, parce que on n'en a pas. Des fruits secs, donc on prend ce qu'on a sous la main, des raisins, des abricots secs, des choses comme ça. Une demi-tasse de beurre, une demi-tasse de margarine. ou de graisse de mouton. Moi, je vous ai épargné la graisse de mouton, on est resté dans des choses un petit peu plus françaises. Un œuf battu seulement et une tasse de lait. On mélange, on empile une pâte, on l'étale. Avec un emporte-pièce, on coupe nos scones et on les fait cuire une dizaine de minutes à four très chaud.
Ils sont sacrément réussis et c'est les raisins secs notamment qui sucrent ce scone qui ne l'est pas trop à l'origine, on l'a bien compris. Je me tourne évidemment vers ma voisine de gauche, l'anglophile, Elvira Masson.
Mais ils sont parfaits tes scones, Déborah. Carrément.
Et j'ai rajouté une petite touche, en fait, pour faire un clin d'œil à notre invité Bina Paradin. En fait, les raisins, je les ai roulés avant dans une cuillère à soupe bien bombée de garam masala, la création de Bina pour les épices Olivier Rollinger.
Une super idée.
Qui donne
ça.
Une petite note.
A-t-on le droit de tartiner un peu de beurre quand même sur ces scones ?
Non, c'est la guerre. Donc pas de clotted cream, pas de confiture de fraises. En temps de guerre, pas de beurre, quoi.
Donc si j'ai bien suivi votre propos, il y a aussi des recettes dans ce roman.
Exactement. Chaque chapitre, en fait, propose une recette. Alors, pour utiliser la graisse de baleine, puisqu'a priori, c'était ce que les ménagères britanniques avaient à disposition. On a l'utilisation des têtes de poisson. Pas mal de recettes seront assez inexploitables, il faut être honnête, mais vous aurez quand même des belles surprises.
Très bien, vous nous rappelez le titre de cet ouvrage qui est votre coup de cœur.
Les recettes des dames de Fenlay chez Albin Michel, et ça vaut 22,90€.
Très bien, allez, une petite pause liquide avec mon voisin de droite, il trépigne, il a très envie de nous parler, page et cépage.
On va déguster sur France Inter.
C'est à vous, cher Dominique Hutin.
Je crois qu'on avait dit pas de jeu de mots tout à l'heure.
Ouais, c'est vrai. Je peux pas m'en empêcher. Je suis désolé. C'est comme des tocs.
C'est pas grave. Moi, je vous propose une ode au voyage. On va prendre le sillage des vins. Accrochez-vous. Les vins de retour des Indes. On va opérer un crochet par Madère et finir pour se rapprocher de nous dans la Seine au XXIe siècle. Alors, par contre, je nourris une petite inquiétude pour la suite de cette chronique parce que depuis tout à l'heure, vous n'avez à la bouche qu'au Salon du Livre, Salon du Livre. Or.
Festival du Livre.
Sauf que, en amont, moi, je suis formel. Vous m'avez parlé de Salon du Litre. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, vous comprenez ? C'est pas la même chose. Moi, je suis chroniqueur vin dans cette émission. Non, mais essayez d'être un peu plus précis, ça va aider tout le monde pour la suite des... Bon, heureusement, le thème de l'Inde, ça va nous permettre quand même de satisfaire aux exigences de cette chronique. Donc, pour un long voyage des rives de l'Inde jusqu'au bord de la Seine, un long voyage pour lequel il faudra penser un petit peu à se rafraîchir, c'est la raison pour laquelle, exceptionnellement, je vous ai apporté deux vins qui sont dans vos verres respectifs, chers amis. Alors pourquoi deux ? Ben c'est Bina Paradin qui, tout à l'heure, hors micro, m'a rappelé quand même un emprunt à la sagesse proverbiale de l'Inde. Pourquoi
Oula,
deux ?
Elle a peur.
Non, simplement parce que indien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Oh là là.
C'est tout. C'est pas compliqué.
C'est lourd.
C'est alors, le premier de ces vins, alors il est issu de ma cave personnelle, c'est un petit peu spécial. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai vin indien. Voilà, un vrai vin indien, c'est un 2011, c'est pas Syrah, Antoine, ça vous parlera. C'est un vin qu'on connaît bien dans le sud de la France. Le domaine, c'est Vindhya. La région, c'est le Karnataka. Je le prononce doucement, je le prononce bien ? Très bien. Alors, si vous voulez situer les choses, vous voyez la mode Beuvron, par exemple, ou en le Fuselier, c'est un peu après, un petit peu plus loin, voilà. Alors, si vraiment on veut être un tout petit peu plus précis, il faut viser le sud-ouest de l'Inde. Sud-ouest de l'Inde où les réalités sont un peu différentes de celles de ce dimanche hexagonal, puisque là-bas, les vendanges sont en train de se terminer. On est sous d'autres latitudes, évidemment. Alors donc, oui, le vin indien existe. Oui, nous parlons avec l'Inde d'un formidable bassin qui enregistre les plus fortes croissances de consommation de vin au monde, avec des estimations qui sont avancées de l'ordre 50% chaque année, en termes de progression. C'est assez spectaculaire. Alors, cela relève quand même d'une espèce de frisson exotique pour nous, Français, dans le sens où les vins indiens ne sont pas franchement, voire pas du tout, distribués en France. Donc, j'ai quand même apporté quelque chose d'un petit peu un peu différent, puisque je vous ai promis tout à l'heure le vin de retour des Indes. Eh bien, cette notion a colonisé les étiquettes de vin en France. Voilà, c'est une histoire. Et je vous ai amené un de ses héritiers, un Madère, le cépage Verdelio, et c'est un 1981.
Ça, c'est un beau cadeau. Vous l'avez goûté ou pas, Antoine Gerbel ?
Oui, je suis fan de Madère.
Alors ?
Bah, c'est ce côté incroyablement liquoreux, sucré, suave, et en même temps, c'est une île plein vent, pleine mer, tellement iodée que tous les raisins ont un côté salé, et donc ça n'alourdit pas la bouche. C'est une magie, le Madère, hein, c'est un truc c'est extraordinaire.
Et voilà, c'était la fin de ma chronique par Antoine Gerbel, à qui je vais partager mon salaire.
On adhère à ce Madère.
On adhère, on adhère. Donc ça vient de chez Henriques et Henriques. Alors je sais pas, c'est du portugais, je suis désolé. Elvira, ça ressemble un peu au suédois.
Un peu, était bon. Pas loin, ouais.
Ok. Donc 1981, c'est distribué par la Maison du Gard. Vous allez trouver toutes les références sur notre site. Et pourquoi 1981? Simplement parce que c'est la date de naissance, non pas de ce salon du livre, mais salon du festival du livre, je sais plus comment on l'appelle exactement. Simplement pour comprendre un peu la coquetterie de ce qu'est le vin de retour des Indes. En plus de jouer à saut de continent, il faut aussi remonter le temps jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Imaginez une cargaison de vin produit donc sur l'île portugaise de Madère. Elle est embarquée en direction de l'Inde, mais pour supporter le roulis des océans, les chaleurs torrides, les vins sont fortifiés à l'alcool. Mais, quel suspense, ça y a des rebonds. Un commerçant a dû revenir avec une partie de sa cargaison et on s'aperçut au retour que le roulis et le changement de température avait bonifié le vin. Énorme succès commercial, début de la légende des vins de Madère, à tel point que les Bordelais, qui ont la bosse des commerces, entre autres, ont embarqué des tonneaux sur mer pour vendre leur vin bonifié sur ce modèle de vin de retour des Indes. Alors évidemment, c'est une mode qui s'est évanouie en même temps que s'effilochait la fin du 19e siècle, mais les vins de Madère contemporains, comme celui qu'on goûte aujourd'hui, ils sont depuis cette époque-là chauffés pour reproduire les conditions de voyage autour du monde. Voilà, ça s'appelle Estufa. Donc c'est évidemment le prix, c'est le vin des élites, c'est un vin d'histoire, il a 41 ans, mais sur le site de Dugas, vous avez trouvé 29 références de Madère à partir de 18 euros. Et ces vins finissaient au port du Havre et finissaient par transiter jusqu'à nous avec les rives de la Seine. Nous y sommes, la boucle est bouclée, tout comme ma chronique. Juste un petit truc, comme je ne peux pas faire de carnet de dégustation cette semaine, vous allez sur notre site et vous allez trouver un tour de France de ceux qui agencent le vin et les livres, ces libraires et ces cavistes. Il y en a une vingtaine dans toute la France et donc c'est une manière d'agencer livres et litres.
Ça, c'est une très très belle idée. Merci beaucoup, cher Dominique. L'Inde, pays invité de ce Festival du Livre de Paris, et l'Inde à savourer dans un instant dans les assiettes dont on va déguster. Vous nous avez préparé de très belles choses, cher Bina. Notre public va d'ailleurs goûter et faire quelques commentaires de dégustation. Le point commun des recettes que vous nous avez apportées, c'est le garam masala. Vous lui consacrez un livre dont on parle dans un instant. Le choix musical de Djoubaka au diapason de notre émission sur l'Inde. Vous connaissez cet artiste, Bina Paradin Migoto?
C'est Sushila Raman, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, qui part sur des rythmes assez classiques indiens et qui les met au goût du jour. Je crois qu'elle est basée en Angleterre.
C'est ça, à Londres. Sushila Raman, une artiste originaire d'Inde du Sud avec le titre Maya sur France Inter.
On va déguster sur France Inter.
Je suis maîtresse des épices. Je connais leur histoire, la signification de leurs couleurs et de leurs odeurs. Je peux les appeler par leur véritable nom, ceux qu'elles ont reçus à l'origine quand la terre creva comme une écorce et qu'elles jaillirent pour la première fois à la lumière. Leur feu court dans mes veines. De l'amchour au safran, elles se plient à ma volonté. Sur un murmure de moi, elles me livrent leurs propriétés cachées, leurs pouvoirs magiques. Oui, elles recèlent toutes de la magie, même les épices qu'on verse d'une main distraite tous les jours dans sa marmite.
Bina Paradin Migoto, merci beaucoup pour cette lecture. Vous avez eu le libre choix d'un extrait de littérature indienne. Vous nous le présentez, vous nous présentez notamment son autrice.
Alors j'ai choisi ce livre de Chitra Banerjee Divakaruni qui s'appelle « La maîtresse des épices » et qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui tient un magasin d'épices à Auckland aux États-Unis. Et on apprend au fil du livre que cette femme est en fait une vraie maîtresse des épices, une quasi-sorcière qui a été initiée sur une mystérieuse île où on apprend le pouvoir magique des épices.
Chitra Banerjee Divakaruni, une écrivaine et poétesse originaire de Calcutta, c'est bien cela?
Exactement.
Et on se rend compte à travers cet extrait que vous nous avez lu que les épices sont finalement beaucoup plus que de simples condiments. Ils ont une valeur quasiment magique, symbolique, salvatrice.
Ils ont une valeur, effectivement, on leur prête beaucoup de vertus dans la cuisine indienne. Les épices sont toujours utilisées pour leur goût, mais aussi pour leurs vertus qui ont été codées par l'Ayurveda, la science médicale ancienne indienne. Donc on a plein de vertus qui sont attribuées à chaque épice. Et effectivement, ce livre ouvre d'autres perspectives en montrant qu'il peut quasiment y avoir des sortilèges liés aux épices.
C'est tout naturellement qu'on en vient au garam masala. Ça y est, j'ai prononcé cette formule magique. C'est le titre du petit livre que vous publiez dans une collection qu'on connaît très bien. Une collection à succès, je compte plus les titres, hein, tellement il y en a. 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure avec une préface de Mathilde Rollinger, fille d'eux, mais pas que, puisqu'elle s'occupe de tout le comptoir des épices, de l'écosystème Rollinger, et voici ce qu'elle écrit pour démarrer votre ouvrage. Garam masala, ces mots résonnent comme une formule magique pour ouvrir les portes d'un palais des mille et une nuits. Garam masala, on a tous entendu parler de ce nom. On a tendance à confondre ça avec le curry ou d'autres poudres d'épices. On aimerait y voir plus clair. Définition du garam masala, en passant peut-être d'ailleurs par sa traduction littérale.
Garam, ça veut dire chaud. Et masala, c'est mélange. Donc, le masala, c'est le nom générique de tous les mélanges d'épices. Et le garam masala, en l'occurrence, est un mélange qui est vraiment très populaire en Inde. C'est un mélange originaire au départ du nord de l'Inde, mais qui était, quand moi j'étais petite, qui suis originaire du sud de l'Inde, quelque chose de très exotique. C'était comme manger, je sais pas, du poulet à la crème quand on habite à Marseille.
C'est ça.
Et donc ça s'est beaucoup répandu les 30 dernières années. C'est devenu aujourd'hui une saveur vraiment de la cuisine de ménage qu'on trouve partout en Inde, du nord au sud. Et le garam masala, c'est un mélange qui s'appelle garam chaud, parce qu'il est à base de poivre. En fait, le chaud originel de l'Inde, c'est le poivre. Ce n'est pas le piment qui a été apporté après la découverte du piment par Christophe Colomb en Amérique. Mais avant, les recettes étaient toutes à base de poivre.
Et la chaleur n'est pas la même.
La chaleur n'est pas du tout la
dans
même.
Dans le poivre, c'est la pipérine qui crée ce sentiment légèrement piquant ou chaud, justement, contrairement au piment, dont on connaît la molécule.
Et qui va donner ce côté extrêmement piquant, ardent.
Alors, il y a comme une espèce de paradoxe. Le poivre noir du sud de l'Inde comme colonne vertébrale du garam masala, qui est pourtant un mélange originaire du nord de l'Inde. Que s'est-il passé ?
Alors, le poivre qui est originaire effectivement du Kerala et l'or noir du Kerala depuis toujours, puisque les producteurs d'épices et les marchands vendaient partout le poivre avec force marge des revendeurs à travers le monde. Donc, c'est la source de revenus. Et donc, évidemment, l'un des premiers marchés à conquérir pour les Indiens du Sud, c'était d'aller en Inde du Nord.
Je glisse sous les narines de ma voisine Elvira Masson une petite fiole, un garam masala que vous avez composé. Allez, petite description Elvira, parce qu'il n'y a pas que le poivre noir évidemment dans le garam masala.
Non, c'est très complexe justement, il y a plein de choses, plein de couches différentes. Il y a de la chaleur, mais ça brûle pas du tout. C'est complexe, c'est long en bouche, c'est assez vert, grâce à la cardamome sans
exactement,
doute.
Exactement, qui donne la note fraîche.
C'est assez giroflé aussi, on sent un peu la girofle.
Il y a un peu de girofle.
Très subtil, quoi. Et c'est, oui, voilà, c'est fin, ça brûle pas, et ça s'exprime, voilà, au fil des minutes.
Dans le garam masala, est-ce qu'il y a des épices obligées? Il y a évidemment le poivre noir, on l'a compris, mais après, est-ce qu'il y a vraiment des épices incontournables de ce mélange?
C'est un peu comme un parfum, les masala, les mélanges d'épices. Il y a toujours des structures qu'on va retrouver et dans lesquelles on peut composer sa recette à son goût. Donc la base, c'est effectivement le poivre. Après, il y a des notes que je dirais, que j'appellerais de cœur, qui sont plutôt le cumin, le fenouil, la muscade, qui vont venir apporter la profondeur au mélange. Et effectivement, comme le disait Elvira, il y a des notes vraiment de tête qui vont apporter la fraîcheur et le côté opulent. Donc c'est notamment la cardamome et la cannelle dans ce mélange.
La différence entre garam masala et curry. Je commence à connaître à peu près la réponse parce que plusieurs fois vous êtes venu nous raconter justement ces histoires d'appropriation culturelle, mais il y a une différence fondamentale pour les Indiens.
Oui, parce que le curry, paradoxalement, qui est le goût de l'Inde partout dans le monde, n'est pas originalement un mélange indien. C'est un mélange qui a été reconstitué par les Anglais, enfin inventé par les Anglais, qui revenaient des colonies où très souvent les soldats anglais trouvaient beaucoup de goût à la cuisine et apparemment aux femmes indiennes. Et donc ces gens qui revenaient des colonies essayaient de retrouver le goût de l'Inde chez eux et ils se confrontaient au fait qu'ils n'avaient pas les produits, qu'ils n'avaient pas non plus les mortiers pour fabriquer les poudres fines de masala qui vont donner le goût. Et donc il y a un pharmacien anglais qui a eu l'idée d'inventer une poudre qui est le curry et qui donne le goût de l'Inde à tout sans aucun effort.
Le curry est donc une construction occidentale, même s'il y a eu un petit comeback du curry en Inde, hein, il faut bien le dire.
Bah, aujourd'hui,
les Indiens, à leur tour, se sont appropriés cette invention anglaise.
Exactement, le curry est devenu synonyme de goût de l'Inde, y compris pour les Indiens, paradoxalement.
Par le prisme des casseroles, on peut expliquer l'histoire du monde. C'est en cela que la gastronomie est tout à fait passionnante. Une petite recette à base de ce garam masala. Il y a 10 exemples d'utilisation de ce garam masala dans des currys, dans des ragoûts, devrais-je dire, mais également dans un petit triangle très emblématique de la cuisine indienne.
Alors, je vous ai préparé des samosas. Donc, le samosa, c'est vraiment un snack en Inde qu'on peut manger à toutes les sauces, littéralement, puisque c'est aussi bien un plat de la street food qu'un plat de ménage. Et je vous ai fait avec, donc, le samosa est parfumé avec du garam masala. Mmh. Et je vous ai fait avec un chutney vert, donc un chutney d'herbe, de citron, parfumé avec un peu de cumin et de coriandre. Et vous avez à boire à côté un chai, qui est un thé aux épices indien, qui est parfumé avec du gingembre, de la cannelle, de la cardamome, du clou de girofle. Et en effet, le samosa, c'est vraiment un snack. C'est quelque chose qu'on va très souvent manger à l'heure du thé, parce qu'en Inde, on a aussi cette tradition de l'heure du thé, comme les Anglais.
Est-ce que quelqu'un dans le public a eu la chance de voler Madame, vous vous appelez comment ?
Bonjour, Florence Renard. Effectivement, j'ai eu la chance de goûter ce petit samosa. Alors, c'est une bouchée, hein, franchement. Ça se mange...
Vous êtes en train de dire que vous n'en avez pas eu assez.
Okay. Vous voyez, moi, j'avoue, madame, c'est quand même l'heure du déjeuner.
Madame est sur sa faim.
Ce sont vos impôts, madame.
Alors, je pensais vraiment, comme on parle d'épices, avoir quelque chose qui allait être relevé. Et effectivement, c'est pas du tout... C'est épicé, mais c'est fin. Ça reste en bouche. C'est-à-dire que je l'ai mangé il y a à peu près une dizaine de minutes. Et bon, j'aurais bien voulu boire quelque chose.
Ça va venir, ça va venir.
Mais non, c'est incroyable. En fait, on n'est pas du tout en train de suffoquer, de pleurer ou quoi que ce soit, non. Et la petite sauce verte à côté, donc au coriandre, vraiment accompagne parfaitement parce que c'est un peu sec sans cette petite sauce. Non, il faut, voilà, on boit, on voit que c'est un complément, c'est un trio. En fait, c'est vraiment...
Avec un petit chutney vert qui est magnifique.
Voilà. Vous êtes engagé officiellement à partir d'aujourd'hui.
Les recettes de samosa au garam masala, de chai, mais également de chutney vert. Toutes ces recettes sont sur franceinter.fr à la page On va déguster. Je peux vous assurer que vous pouvez très tranquillement vous fier aux recettes de Bina Paradin-Migoto. Moi-même, je les pratique très régulièrement à la maison. Madame avait soif. Et ben, quand quelqu'un de notre public a soif, on appelle un de nos monsieur vins, Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Et si le vin français se mariait aux épices indiennes, on peut tenter un jumelage dans le verre, cher Antoine.
Oui, on peut tenter, mais alors je vais poser tout de suite la question. Quel vin associer avec des mets si piquants, si pimentés ? Honnêtement, si vous êtes déjà allé en Inde, aucun. Aucun vin ne résiste à la puissance de la cuisine locale, ce feu quand il est respecté, vraiment rien du tout, même bien sûr pas l'eau, surtout pas boire d'eau puisque ça attise bien évidemment les molécules du piment et bien évidemment vous avez cette boisson qu'on vous a servie, c'est le thé, c'est le lait qui est la base quand même des boissons indiennes, qui fonctionne bien. Mais on a de la chance. On nous a raconté l'histoire du curry, qui a voyagé à travers les Anglais, qui a adouci. Et pour nos palais européens, heureusement, cette cuisine indienne, elle s'est énormément adoucie. Le masala, le curry, le tandoori, tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux. Et on a des vins pour cette semi-douceur, je dirais. On a des vins qui ont du caractère. On va chercher, si on est dans la cuisine plutôt du Nord, donc volonté carnivore, hein, l'Inde du Nord est plutôt carnivore, l'Inde du Sud est plutôt végétarienne. Donc si on est dans la cuisine du Nord, eh ben on a des rouges tanniques en France, on a des rouges qui ont des saveurs qui, généralement, sur notre cuisine française, prennent un peu le pas. Il faut aller chercher un canard très gras, très confit pour aller avec ces rouges. Et c'est là, vers là, je voudrais vous emmener vers une petite appellation rouge qui s'appelle Madiran. Alors Madiran, j'ai des copains rugbyman, jadis, ils me disaient il faut un protège-dents pour boire du Madiran. Tellement les tanins sont puissants et vigoureux. Ça, c'était avant, comme on dit. On a parlé de construction, déconstruction culturelle autour du vin. Et ben des appellations, elles ont des belles histoires. Madiran, par exemple, c'était en 1880, c'était l'égal du Pauillac sur les tables à Londres. Et puis, c'est devenu un vin beaucoup plus modeste, beaucoup plus médecin, puisque le Madiran allait chez des marchands vendus en vrac à Bordeaux pour corriger les vins de Bordeaux en couleur et en tanin. Ça, on va dire que c'est les années un peu compliquées. Puis, progressivement, les vignerons ont fait de la bouteille. Progressivement, beaucoup de coopératives. Il y a une solidarité historique quand même dans ce... On est dans le Gers, on est dans les Hautes-Pyrénées. Historiquement, ils ont travaillé. Ce fut lent. C'est vous que j'ai observé cette appellation pendant des années et je m'y suis un peu ennuyé. J'y suis retourné très récemment et j'étais emballé. Alors, je vous ai amené deux vins. Parce que, en fin de compte, Madiran, on fait du rouge et puis il y a une petite appellation juste à côté où ils font des blancs secs et liquoreux, ce qui s'appelle le pachrinc de Vicqueville. Et ça, c'est assez sympathique aussi sur notre cuisine indienne. Et là, hop, je descends dans le sud sur la cuisine végétarienne. Donc, les blancs liquoreux acidulés pour la cuisine végétarienne et des rouges tanniques. Alors, deux vignerons que je mets à l'honneur. Il y a une liste un petit peu plus longue sur le site dont on va déguster, plutôt tournée vers la nouvelle génération. Le premier vin que je vous ai servi, le rouge, le Madiran, c'est Simon Capmartin. Ce sont ces vieilles vignes. C'est du tanat, le cépage originel de Madiran. Mais le tanat a des gros pépins et quand vous les pressez, quand vous leur cognez un peu dessus dans la cuve, on va dire à la méthode historiquement un peu bordelaise, bah ça fait des gros tanins vulgaire, on peut le dire. Mais si vous regardez plutôt sur la Bourgogne, ce côté qu'on fait avec les pinots noirs, vous les infusez seulement, vous utilisez que le jus, vous n'allez pas trop extraire ce pépin à cette peau, et ben vous commencez à avoir cette délicatesse de tanin. Alors attention, c'est coloré, ça reste vraiment dans la périphérie de ce qu'on aime de ces vins du sud-ouest, on les choisit pour ce fort caractère, mais on a plus ce côté râpeux, lourd, difficile. Et j'ai testé avec un tandoori fait par un Indien, c'était magnifique. Ça, c'est sa cuvée vieille vigne. Il décline toute une cuvée. C'est un vigneron qui est en bio, en biodynamie, qui est aussi proche de la mouvance naturelle, qui ne peut pas exister dans le cadre des appellations parce que c'est presque des vins très, très peu colorés. Il réussit à faire des tanates presque transparents. Mais qu'est-ce que c'est bon? Ça rappelle des rosés d'antan comme on les est. Et votre vin liquoreux, c'est un jeune vigneron aussi que j'ai découvert, qui s'appelle Simon également. Simon Ribert, il a 30 ans, il fait du vin depuis 2017, mais il a pas de chai, il fait son vin chez deux coopératives. Ça, je trouve ça assez sympathique. C'est un vigneron indépendant et deux coopératives l'accueillent pour faire une son rouge, une son blanc. Et cette coopérative, elle l'aide parce que lui, il me dit, moi, j'ai mis tout mon argent dans un tracteur et j'ai pas pu m'acheter de chai. Et donc, je préfère faire ma vigne et on m'aide aujourd'hui pour faire mon vin. Et c'est très bon. Donc, quand ce garçon aura vraiment son chai, à mon avis, ça va être extraordinaire. J'aime beaucoup son étiquette, ça s'appelle Strateus. Vous voyez les différentes couleurs, c'est les couches de son sol. Et il a aussi un rouge qui fait en Madiran, qui s'appelle Néolithique. Néo, c'est le nez. Lithique, c'est bien évidemment le côté lié à la terre, à l'expression de son terroir. Voilà, je vous reporte sur le site d'On va déguster, où il y a un petit peu plus d'informations. Merci.
Bina, vous buvez quel genre de vin avec vos recettes épicées ?
Moi, j'aime beaucoup ce qui est proposé. J'aime beaucoup les accords qui sortent des sentiers battus. Donc, je trouve que c'est parfait.
Très bien. Bah, écoutez, mettons-nous au Madiran. Toutes les informations sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci Antoine Gerbel. Elle s'allonge sur le divan et nous confie l'une de ses très nombreuses névroses culinaires. C'est Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Tout va bien?
Bah, Déborah a commencé, hein. Elle nous a fait goûter des scones. Donc évidemment, moi, je mets le pied dans la porte, je m'engouffre dans la brèche. Qui dit scones dit dessert british. Et moi, je vous ai apporté...
N'en dites pas plus.
Non.
On a fait passer une assiette. Alors là, on est carrément à l'aveugle, si ce n'est que vous n'avez pas le bandeau, madame.
Je m'appelle Chloé.
Chloé, vous êtes donc dans notre public venu nombreux au Festival du Livre de Paris. Est-ce que vous avez plongé la cuillère dans le dessert qu'a préparé Elvira ?
Oui, j'ai goûté ce dessert qui était très équilibré, avec une espèce de crème, un peu comme un yaourt, un fromage blanc, avec un petit crumble que j'aurais pas vraiment pu déterminer, mais un petit crumble qui amène pas mal de texture à ce dessert.
Est-ce que vous décelez un fruit ou une aromatique ?
Oui, il y avait des zestes de citron, il
Bien
me semble,
bon, bah, vous
et
avez...
de la meringue.
La liste des ingrédients est bonne.
Ouais, bravo Chloé.
C'est la cousine d'Elvira, j'ai l'impression.
On n'est pas loin d'un trifle, c'est un nom encore plus barbare, ça s'appelle un lemon posset.
Lemon posset, Elvira possédée par le lemon posset.
Possédée par le posset, c'est une des choses que je préfère manger au monde, c'est un dessert complètement british, c'est à la fois acide et doux, c'est citronné. Alors je suis pas la première à en parler à ce micro, Estherelle Payani nous en avait parlé lors d'une émission un peu spéciale que nous faisions lors du tout premier confinement en mars 2020. Elle avait expliqué comment, en manque d'œufs chez elle, et par manque de possibilité d'aller faire ses courses, elle s'était retrouvée à vouloir faire un dessert et elle recommandait cette crème prise, donc sans œufs, faite exclusivement avec de la crème liquide. En Angleterre, on utilise de la double cream, qu'on ne trouve pas vraiment en France. C'est une crème liquide très épaisse et très grasse, du sucre et du jus de citron, c'est tout. Moi, j'agrémente avec des zestes de citron au moment du service. J'émiette un petit peu de shortbread, de sablé ou de meringue. Mais à l'origine, c'est vraiment de la crème liquide épaisse, du jus de citron et du sucre. On fait chauffer sa crème liquide. On la fait même monter à petite ébullition. On met du sucre, on met du jus de citron. Et ça commence à prendre. Le citron fait coaguler. On mélange. On fait le test de la cuillère en bois, c'est-à-dire qu'on trempe sa cuillère. Quand elle ressort et qu'on met son doigt sur le dos de la cuillère, les deux parties de la crème ne se rejoignent pas, elles s'écartent. Ça veut dire qu'on peut verser la préparation chaude dans un bol, un moule, ce qu'on veut, et on laisse prendre au froid. Il faut absolument prendre au froid pendant 3 ou 4 heures. C'est pas une panna cotta, il n'y a pas de gélatine, c'est pas un flan, il n'y a pas d'œuf, c'est tout simplement une crème prise au citron. À l'origine, en Grande-Bretagne, c'est vieux, hein, ça date du 15e siècle. C'était bizarrement une boisson fortifiante. Je ne sais pas vraiment ce que possède veut dire. Il y a 1000 légendes sur l'origine du mot possède. C'est une boisson reconstituante à base de lait et d'alcool. Et puis ça a muté, c'est transformé en dessert. On trouve même la trace dans des sonnets de Shakespeare.
Tout simple,
vieux
brillant.
Comme Shakespeare, moi.
Et ce dessert figure dans les dernières pages de votre livre qui s'est taillé un joli succès au rayon cuisine des librairies. Dans ma cuisine, signé Elvira Masson aux éditions Marabout, avec les très belles photographies d'un photographe dont on peut encore citer le nom.
Pierre Lucet Pénato.
Ce dessert, avec d'autres recettes de votre livre, prennent corps dans un lieu que vous vous êtes approprié. Donc Elvira au micro dont on va déguster, Elvira à la plume de votre livre de cuisine et Elvira en tablier à Bleu Coupole.
Oui, c'est pas Martine la plage, c'est Martine au restaurant.
Oui, c'est ça, la brasserie du magasin Le Printemps, boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement de Paris, avec une terrasse d'ailleurs et une vue panoramique incroyable. Et ce lemon posset, on peut le déguster un peu quand on veut, au tarif de 7 euros.
De 7 euros. C'est une carte que je signe de manière éphémère. Je ne suis pas devenue chef, hein, je ne suis pas capable.
Oui, vous avez une brigade.
D'ailleurs, il y a une brigade, il y a un super chef que je veux citer qui s'appelle Clément Blondeau, qui est un excellent chef en plus
d'être. On peut postuler
comme sommelier,
Dominique, j'ai un petit doute quand même. Ouais, en salle, au vent, très
cave,
bien. Ouais. Et donc, c'est aujourd'hui pas moi qui vous ai apporté ce lemon posset. En réalité, il sort directement de la cuisine du printemps et c'est Clément Blondeau, le chef, qui l'a réalisé. Et c'est ouvert tous les jours et c'est une cuisine qui est complètement inspirée, bah, j'allais dire à 99% de ce qu'il y a dans mon livre. Donc, on part un peu dans tous les sens.
Mais
dans
non, des influences nordiques, des influences anglo-saxonnes, méditerranéennes, levantines, etc. C'est la cuisine que vous affichez, que vous revendiquez, que vous avez brillamment mitonné dans votre livre. Et merci beaucoup. Rendez-vous à Bleu Coupole. Je suis pas encore venu, mais je viendrai m'attabler avec
vous
grand plaisir.
Vous viendrez goûter les boulettes de viande suédoise de ma mère ou une shakshuka.
Avec un immense
des
plaisir.
Des poires aux vinaigrettes.
Ah, des poires aux vinaigrettes. Réservé absolument.
Avec un pseudo, peut-être, non?
Un grand merci.
Faut venir incognito.
Ouais, je vais réserver, c'est ça. Avec des lunettes de soleil. Un grand merci à tous. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Bina Paradin, juste une actualité à nous signaler. Un MOOC de cuisine. Il est tout beau, il est tout chaud. Je l'ai à mes côtés.
C'est Un Dîner A. Donc, c'est un magazine tous les mois qui vous propose de faire un dîner dans une ville du monde à découvrir. En découvrant ses épices, ses habitudes culinaires. Tout ça de façon très simplifiée, puisqu'on peut faire l'ensemble du menu pour 4 en moins de 80 minutes.
Merci beaucoup, Bina Paradin. Et puis, vos deux livres, L'Atlas des épices aux éditions Flammarion et Garam Masala, 10 façons de le préparer aux éditions de l'Épure. Merci au Festival du Livre de Paris pour son bel accueil. Un merci à vous, cher public, d'être venus si nombreux. Et un merci très particulier à vous, chers auditeurs. Vous êtes 1 972 000, presque 2 millions à nous écouter.
On a recompté.
C'est un record absolu en 10 saisons dont on va déguster. Merci à mes chroniqueurs et chroniqueuses et merci à toutes mes équipes de France Inter. La semaine prochaine, rendez-vous dans nos studios de la Maison de la Radio pour les légumes primeurs avec notre pote du potager Xavier Mathias et la chef Marie-Victorine Manoa. Jérôme Gagnès et Elvira Masson, tiens, seront dans les fauteuils des chroniqueurs.
Avec grand plaisir.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim. Dans un instant, on débat littérature dans le masque et la plume.